Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes avec Apolline, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en service civique au musée du Di et du Diwa.
Oui, exactement.
Ensuite, nous avons aussi Jacques Planchon,
bonjour. Bonjour.
Et vous, vous êtes conservateur et directeur du musée de Di.
C'est ça.
Alors vous êtes tous les deux ici pour nous annoncer un événement qui s'intitule « Le musée sort de ses murs ».
C'est ça. Donc c'est un événement qui va avoir lieu en septembre, à cheval sur les deux semaines avant et après les journées du patrimoine. Donc les journées du patrimoine, c'est le week-end mi-septembre. Et qui consiste, comme son nom l'indique, à sortir des objets des vitrines du musée et à les exposer dans les devantures de certains magasins à Die.
C'est un événement typiquement local ou alors c'est au niveau national que ça se passe ?
Alors sur le principe, c'est un événement national puisqu'il y a 19 projets qui ont été retenus au niveau national par le ministère de la Culture. Et après, dans son application, c'est-à-dire la façon dont ça se passe, c'est purement local, puisque on sort des objets du musée de Die pour les exposer dans des vitrines de magasins de la ville de Die. Et c'est un projet qui n'est pas très commun de ce point de vue-là, puisque les autres projets retenus par le ministère sont, eux, totalement différents.
Cette participation des commerçants de Die, pour vous, est un bénéfice aussi, par rapport à son implantation au musée ?
Alors, faire participer les commerçants, nous l'idée c'était de sortir les objets des vitrines pour les remettre en vitrine, ce qu'on trouvait plutôt drôle, bon c'est un sens de l'humour très particulier. Faire participer les commerçants, ça paraissait la logique, vu la thématique qu'on avait choisie. Après, on vit pas non plus sur une autre planète, on sait très bien que il y a en ce moment des enjeux sur la redynamisation des centres-villes, que ce soit dans le Diwa, mais que ce soit au niveau national, les centres-villes ont tendance à avoir des petits soucis. Et le lien s'est fait assez naturellement quand on a discuté, puisque c'est un projet qui est fait en partenariat avec l'association Trajet Spectacle. Donc c'est vrai, quand on a discuté, qu'on a fait notre brainstorming pour voir quelles étaient les idées qu'on pouvait mettre en œuvre, ça nous a paru quelque chose d'assez évident.
C'est une opération donc qui est produite par le musée et la mairie, la ville de Die aussi est derrière ce projet.
De toute façon, le musée étant municipal, c'est un service municipal, donc c'est évidemment la ville de Die qui est au pilotage derrière, toujours en partenariat avec Trajet Spectacle, puisque cette opération qui va durer deux semaines, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, ça va de pair avec une opération qui a commencé en novembre l'année dernière, donc ça fait quand même un petit moment, avec des ateliers qui ont été faits, qui ont été délivrés par des artistes dans le cadre de Trajet Spectacle, où des gens qui participent à ces ateliers ont pu travailler sur des objets du musée, c'est ces objets qu'on a retenus ensuite pour être exposés ailleurs, en faisant tout un travail d'expression graphique et d'expression littéraire. C'était un début de travail pour commencer à s'approprier ces objets. L'idée, sur le fond, c'est de dire que le musée se doit d'être ouvert à tout le monde, que c'est vraiment dommage quand une personne arrive en disant « ça, c'est pas pour moi ». C'est un morceau de culture qui ne me concerne pas, puisqu'en fait, le musée présente des objets issus du passé qui ont été utilisés par des gens comme tout le monde et qui peuvent continuer à parler à des gens comme tout le monde. Donc, tout le sens de l'atelier, c'était que les gens s'approprient ces objets, donc ils racontent l'histoire de ces objets à leur façon, de façon sensible, avec leurs propres émotions, qu'ils les représentent graphiquement sur le même principe. Et puis évidemment, il y a un petit contrepoint qui est fait ensuite par la conservation pour rappeler que cet objet, en plus d'évoquer tout un tas d'histoires pour les gens qui les regardent, ont leur propre histoire beaucoup plus scientifique. Et tout ce travail-là est en train de passer sous presse, puisque ça va sortir sous forme d'un livre. qui est le deuxième volume, puisqu'on avait déjà fait un travail l'année dernière, en 2016-2017, à peu près sur la même thématique, avec d'autres objets sur lesquels il y avait eu aussi un travail littéraire et graphique, et le contrepoint du conservateur.
Vous opérez donc à la création d'un livre d'art, en quelque sorte ?
Alors, livre d'art, oui. Livre audio, surtout, puisque les textes, enfin, l'ensemble des textes sont aussi lus et mis en ambiance musicale. Donc il y a tout un collectif d'artistes qui intervient évidemment dessus. Et donc c'est un livre qui est accompagné par un CD qu'on peut écouter indépendamment ou pendant la lecture, c'est comme on veut.
La municipalité tient toujours compte aussi de la mémoire de la ville, de ce pays.
Alors, de toute façon, oui, la municipalité a un musée dont elle tient forcément compte. Ça représente en effet tout un budget. C'est un effort pour une ville de cette taille, vous imaginez bien. Donc oui, la ville en tient compte et soutient le travail qui est fait par le musée.
La thématique de la vitrine muséale, c'est donc des expositions d'objets. Est-ce qu'il y a une thématique sur le choix des objets qui seront distribués ?
Alors la thématique, c'était assez simple, c'était des objets qui soient transportables par une seule personne pour éviter de faire des frais et de provoquer des aménagements trop importants parce qu'il faut ensuite les mettre en vitrine dans les magasins. Donc il ne s'agit pas de reconstruire toute la vitrine du magasin pour supporter une pierre énorme, etc. Donc tous les objets sont transportables, c'était le but. Après, il y a eu un choix qui a été fait entre la conservation du musée et les artistes qui allait intervenir dans les ateliers. Donc on avait sélectionné, je sais pas, une petite trentaine d'objets, on en a retenu une vingtaine, sur lesquels les gens qui ont participé aux ateliers ont travaillé. Après, il n'y a pas de thématique particulière, c'est des objets qui sont représentatifs de toutes les périodes, c'est-à-dire de la préhistoire ancienne jusqu'au 19e siècle, qui sont des objets de la vie quotidienne pour la plupart, ou en tout cas des objets qui ont une évocation dans la vie quotidienne. Après, je ne vais pas vous détailler objet par objet, parce que c'est un peu la surprise. Et à vous de les découvrir dans les magasins de la rue Buffardel. Hein, on s'est limité à la rue Buffardel. Il y aura un petit livret jeu qui va paraître aussi pour permettre de suivre ces objets de magasin en magasin et de raconter une petite histoire à partir de là.
Comment s'est opérée cette distribution de vitrines parmi les commerçants ?
On a pris contact avec l'association des commerçants du centre-ville, donc c'est tout dit. On a eu un accueil assez sympathique. Et puis ensuite, on a fait le tour des magasins qu'on avait un petit peu présélectionnés. J'avoue qu'on a été très heureusement surpris de l'accueil qu'on a reçu. C'est-à-dire qu'on s'attendait à ce qu'il y en ait quelques-uns qui nous disent « ouais, ça m'intéresse pas », etc. Pas du tout. Les commerçants sont plutôt volontaires pour ce genre d'initiative. Ils sont assez partants. Et vraiment, on a été reçus très amicalement par l'ensemble des magasins. Donc on était plutôt contents. Après, nous, on a fait un choix, évidemment, de magasins. Il fallait quand même qu'il y ait des vitrines qui soient, dans lesquelles on puisse exposer en toute sécurité des objets de musée. Donc ça en écartait un certain nombre. Par exemple, les vitrines des bars, ça passe pas, c'est pas possible, pour des raisons évidentes. Les pharmacies, c'était compliqué parce que, c'est une autre organisation. Enfin voilà, on a éliminé un certain nombre de magasins dans lesquels c'était soit impossible, soit vraiment difficile à mettre en œuvre, et on a gardé tous les autres. Et en essayant aussi d'établir un rapport, alors que ce soit en relief ou en creux, c'est-à-dire un rapport direct ou indirect entre l'objet qui est exposé et le magasin qui l'accueille. Voilà. Et ça peut donner des situations un petit peu cocasses, amusantes, où au contraire, l'objet va se fondre complètement dans la vitrine, ce qui rend les choses là aussi plutôt amusantes.
Et ces créations autour de ces objets, ça va dans le cheminement aussi de développer un peu l'activité culturelle sur Die. Est-ce que c'est une nécessité pour le musée de se faire connaître par ce biais ?
De se faire connaître, oui, c'est pas une opération publicitaire, hein. On n'a rien à vendre si ce n'est des tickets, et ils sont pas très chers, mais c'est pas ça qui fait vivre le musée. Se faire connaître, simplement, ce que je disais tout à l'heure, pour dire aux gens... Personne n'est étranger dans un musée, c'est-à-dire que c'est une histoire humaine qui est présentée par des objets, mais qui raconte l'histoire de l'humanité, qui raconte des histoires particulières, que ce soit à l'intérieur du musée ou que ce soit dans les vitrines des magasins. Et cette histoire humaine, ces histoires humaines concernent tout le monde. On est humain, on a tous des histoires à raconter ou des histoires qui nous sont arrivées. Donc l'idée, c'est un peu de faire connaître le musée par ce biais-là, en disant, ben voilà, ces objets qui normalement sont présentés dans un musée, dans un lieu qui est à part, qu'on peut considérer comme un lieu un peu sacralisé, où les gens n'osent pas rentrer, ben ces objets, ils peuvent aussi se retrouver dans la vie courante. Ils ont leur histoire à raconter et personne n'est étranger à ça. Toute histoire humaine concerne toute l'humanité.
Vous envisagez d'autres événements ?
Alors, on fait de toute façon des événements pendant toute l'année et pendant tout l'été, de façon à attirer des publics différents, à les faire rentrer au musée. Le but, c'est que les gens sachent que cet établissement existe. Et si ensuite ils y reviennent pour visiter les collections, pour apprendre quelque chose sur leur propre histoire ou l'histoire du pays, bah, tant mieux. Mais au moins que les gens sachent que ce musée existe. On arrive encore à croiser dans les rues de Die des gens qui disent « Ah mais je savais pas qu'il y avait un musée à Die ». Donc voilà, c'est un peu cette phrase qu'on aimerait bien faire disparaître dans un premier temps. Et puis après, si les gens viennent et qu'ils reviennent parce que le contenu les intéresse, c'est encore mieux. Mais voilà, une marche à la fois, une étape à la fois. On a des objectifs qu'on met pas trop haut parce que bah voilà, il faut aider les gens à redécouvrir leur propre histoire. C'est un peu le but. Après, c'est aussi donc un partenariat avec Trajet Spectacle qui ont leurs propres enjeux, eux, d'éducation populaire, d'art-thérapie ou ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on a là une collaboration qui est assez agréable parce que les objectifs peuvent être légèrement différents, mais les moyens mis en œuvre et la collaboration, c'est quelque chose de vraiment commun. Donc c'est plutôt sympa de travailler avec eux. On l'a déjà fait l'année dernière, on l'a refait cette année, on va sans doute le refaire l'année prochaine. Après, peut-être qu'un jour ou l'autre, chacun partira de son côté pendant quelques temps, parce que voilà, on n'est pas mariés non plus. Mais tant qu'on y trouve un intérêt et tant qu'on trouve agréable de travailler ensemble, ben on continue, oui, bien sûr.
Apolline, votre fonction vous permet d'exercer quelle activité donc au musée de Die ?
Alors, ma mission, c'est une mission de médiation, de sensibilisation auprès du public. Je fais des tâches qui ont rapport avec les enfants, avec les activités des ateliers. Je participe aussi lors des événements, bah, comme celui-là. Tu peux, voilà, plus vraiment relations publiques.
C'est un enjeu pour vous de pouvoir articuler un musée et puis le public.
Oui, pour moi c'est...
Ça vous permet d'expérimenter des choses, votre activité par exemple ?
Oui, bien sûr. Pour moi personnellement, ça, c'est vraiment ce que je voudrais faire plus tard, mon profession et tout. Et donc c'est, pour moi c'est un très grand enjeu pour un musée, de rester toujours ouvert à tout public, de pouvoir adapter en langage peut-être un peu des fois universitaire, académique, à absolument tous les âges, à tous les types de visiteurs.
D'ailleurs, votre formation, vous-même, est laquelle ?
Je suis en histoire de l'art actuellement, à l'université.
À côté de ça, pendant cette période, il y aura les Journées européennes du patrimoine. Donc, un accent qui sera mis sur quoi, par exemple, à Die ?
Le programme des Journées du patrimoine reste le même dans toute sa diversité, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses à voir à Die. On essaye d'organiser un petit peu les choses avec l'ensemble des associations participantes, et il y en a beaucoup qui participent à cet événement, ne serait-ce que pour maintenir la cathédrale ouverte, pour faire des visites du clocher de la cathédrale, enfin les grands classiques, la porte Saint-Marcel, la mosaïque des quatre fleuves, qui est quand même un petit bijou de l'art roman, c'est quelque chose d'unique, le musée évidemment, mais aussi d'autres découvertes, un égout romain qui passe sous le rempart, qu'est-ce que j'oublie, enfin il y a énormément de choses à voir. Cette année en plus, on aura un petit plus puisque on aura une visite d'une des usines du quartier de Méros, ce qui est aussi extrêmement intéressant, enfin surtout de ce qui concerne le canal de Méros. Ça, c'est un petit peu la nouveauté. Et puis il y a des gens des partenaires qui participent tous les ans, le Moulin Gautier, enfin le Moulin de l'Aube. J'en oublie énormément. Enfin, il y a toujours un programme qui est extrêmement chargé sur Die. Cette année en prime, puisqu'on est dans le cadre du musée Sort de ses murs, Trajet Spectacle va proposer aussi un spectacle le samedi après-midi et en début de soirée à l'espace social, place de l'Évêché, qui est en lien, lui, avec toute l'opération des vitrines de magasins. Et puis tout ça est coordonné aussi par l'Office du Tourisme, mais qui lui fait une coordination sur l'ensemble du Diwa et pas seulement sur la ville de Die. Il y aura un programme des Journées du Patrimoine qui sera disponible à l'Office du Tourisme, comme je disais, puisqu'ils font la coordination sur l'ensemble du Diwa.
Oui.
Ça fait plusieurs années qu'il n'y a plus de programme qui retient l'ensemble des sites au niveau du département de la Drôme, et il n'y a jamais eu de programme sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes. Par contre, il y a un site internet du ministère de la Culture qui, lui, recense l'ensemble des activités sur l'ensemble du territoire national. Donc voilà, c'est plutôt là qu'il faudra aller se renseigner dans l'immédiat, jusqu'à ce que l'Office du Tourisme sorte, je pense, dans les 10 jours qui viennent. Ils vont sortir le programme général sur l'ensemble du territoire. Je sais qu'il y a des choses à Pontet, il y a des choses à Sainte-Croix, enfin, il y a des choses à voir dans tout le Diwa, de toute façon.
On va revenir sur cette attribution. Vous faites partie des 19 prestations qui ont eu un agrément du ministère de la Culture. On peut avoir quelques précisions un peu sur cet état ?
Alors c'est un projet qui a été lancé par le ministère de la Culture, donc par Françoise Nyssen, la ministre. L'idée, c'est justement de désacraliser un petit peu l'idée du musée, de faire sortir les collections et de ne pas les laisser uniquement dans ces établissements, de les remettre à disposition de tous, même si les établissements sont des établissements publics, donc appartenant à tous et à disposition de tous. Mais voilà, l'idée c'est de rapprocher les objets de musée de la population, parce qu'on note que la population, tout le monde ne vient pas dans un musée. Donc, si vous n'allez pas à la gare d'Air, c'est la gare d'Air qui vient à vous, pour ceux qui connaissent. Donc c'est ce type d'opération que met en place le ministère de la Culture. Donc ils ont fait un appel à projet. On a répondu parce que avec Trajet Spectacle, on trouvait que c'était bien dans notre façon de voir les choses. Il se trouve qu'on a été retenu, on en est plutôt content. Clairement, au niveau Rhône-Alpes, on est à égalité avec le musée des Beaux-Arts de Saint-Étienne et le musée de Saint-Étienne et le musée des Beaux-Arts de Grenoble, ce qui ne sont pas des petits musées locaux, là, pour le coup. Donc, on peut le dire, on est assez fiers. Après, il y a sur le territoire national beaucoup d'autres musées, grands et petits, qui ont été retenus, mais 19 en tout, ce qui n'est pas énorme. Et ce qui nous rend, oui, franchement, on est content d'avoir été retenu dans le cadre de cette opération. Après, c'est quelque chose qui, je dirais, fait partie de notre ADN, que ce soit au musée, que ce soit avec l'association Trajet Spectacle. Donc, pour nous, ça ne nous change pas complètement de faire ce type d'opération. On avait un projet, on l'a légèrement adapté pour qu'il rentre dans les clous du ministère. Et ensuite, on le met en application dans ces clous-là.
Ça va permettre pour le musée de développer quoi ?
Ça nous permet de consolider ce partenariat avec Trajet Spectacle. C'est important de faire travailler ensemble un établissement muséal et des arts vivants. Simplement parce que ce qui est exposé dans le musée, c'est pas que de l'art. Il y a aussi beaucoup d'artisanat, mais ce sont des productions humaines. Qu'elle soit artistique ou qu'elle soit purement artisanale, vie quotidienne, ça reste des productions humaines, donc il y a un lien évident. Il y a un lien aussi dans la conception que Trajet Spectacle peut avoir de la diffusion culturelle, qu'on retrouve au musée. Qu'est-ce que ça nous permet de développer ? Encore une fois, notre audience, pour une radio c'est amusant, la connaissance que les gens peuvent avoir de l'existence de ce musée, et puis présenter les objets de ce musée différemment. Parce qu'on les conserve, on les restaure quand il faut. Tout ça a forcément un coût. Et il faut se souvenir toujours, en permanence, que c'est le public qui paye. Sur ses impôts d'abord, éventuellement sur les droits d'entrée. Et que tout ça doit revenir au public d'une façon ou d'une autre. Donc ça fait partie du jeu. Et puis c'est de la médiation, c'est-à-dire avoir des objets, c'est bien gentil. Les conserver, c'est super. Et après, le but, c'est quand même de les ramener à la connaissance du public, de les faire connaître et de raconter les histoires que ces objets nous racontent. On transmet, en fait. On transmet ces histoires-là.
Into the crossfire, faithfully run. And middle America, one on one. And we are the enemies of the fun
Qu'est-ce qui est déterminant pour un objet d'être dans un musée ?
Deux choses, sa thématique et son ancienneté. Alors, l'ancienneté peut être relative, puisqu'au musée de Die, on a des objets qui datent de la première moitié du XXe siècle, ce qui n'est pas très très ancien. On en a d'autres qui ont plusieurs milliers d'années, ça commence à faire beaucoup plus. Après, un musée, c'est avant tout une thématique. Alors, quand on pense musée, on pense immédiatement au Louvre. Le Louvre, c'est un peu le musée de l'exceptionnel, c'est-à-dire les grandes œuvres, les objets fabuleux, enfin des voilà. Il n'y a pas que des musées de l'exceptionnel en France, il y a aussi des musées locaux qui racontent une histoire locale avec des objets locaux qui peuvent avoir un côté exceptionnel, mais qui nous intéressent plus parce qu'ils sont locaux, parce qu'ils ont été fabriqués ou utilisés localement, et que donc ils nous racontent l'histoire du pays dans lequel on habite. Et puis après, il y a d'autres musées thématiques, le musée du lacet, le musée de la cafetière, le musée de ce que vous voulez. Donc chaque musée a ses propres critères de choix et de conservation. Pour le musée de Die et du Diois, c'est avant tout des objets qui proviennent de Die et du Diois et qui racontent l'histoire de Die et du Diois. Ça paraît bête, mais c'est la thématique principale.
En étant dans le musée, nous avons ces vitrines avec ces objets, qui seront d'ailleurs pour certains sur les vitrines de commerce bientôt. Ce que je voulais savoir, comment peut-on connaître l'histoire de ces objets ? Et pour ça, il y a forcément un guide, par exemple, ou alors vous avez édité des brochures qui permettent de situer l'historique de cet objet ?
Des brochures en externe, enfin imprimées, non, ça y a très peu. C'est plutôt des explications qui sont disponibles à l'intérieur du musée. Donc il y a ce qu'on appelle les cartels, c'est l'étiquetage des objets eux-mêmes dans les vitrines pour savoir à quoi on a affaire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les fiches de salle, fiches pédagogiques, qui reviennent soit sur une salle d'exposition du musée en prenant les objets les plus importants et en définissant un petit peu de quoi il s'agit et en quoi ça présente un intérêt, soit d'autres types de fiches de salle qui sont plus thématiques et qui vont faire le point sur le verre ou sur les lampes à huile ou des choses de ce genre-là. Et puis après, il y a des petits livrets qu'on essaye de sortir qui sont toujours à usage interne, qui permettent de proposer un parcours de visite à l'intérieur du musée. Et là, j'aurais dû laisser Apolline en parler puisqu'elle a quand même pas mal travaillé sur tout ce qui est médiation dans les salles du musée.
Ouais, non, mais justement, par rapport aux fiches de salle, juste pour préciser qu'on a aussi une version en anglais, on essaye de s'ouvrir un petit peu à tous. Bien sûr, le guide, oui, pour les visites guidées, toujours le contact humain. Et voilà, une thématique spécifique.
Vous avez une formation de l'histoire de l'art assez globale, ou alors vous vous êtes spécialisé dans certaines époques ?
Alors pour l'instant, j'ai une formation assez globale. Mais de toute manière, je pense que dès qu'on arrive sur un site, sur un musée, peu importe, il y a tout un travail de base qui doit adapter. Enfin, il faut s'adapter à l'histoire locale, à l'histoire même du musée, du bâtiment. Vraiment, il y a forcément un travail de spécialisation sur le champ.
Et votre activité au sein du musée, proprement dite, donc c'est cette information au public, cette médiation avec le public, quels sont les moyens que vous envisagez aussi, autres, pour porter à la connaissance du public ce qu'il y a au musée ?
Au niveau de la communication, les réseaux sociaux, qu'on utilise pas mal, les affiches pour les événements un petit peu exceptionnels, tout ce qui travaille avec le site, avec les newsletters qui reviennent régulièrement pour tenir au courant vraiment de semaine en semaine si possible.
Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'information? Parce que tout le monde n'a pas Internet pour s'informer de ce qui se passe à Die. Il y a aussi la presse locale, je suppose.
Oui, le journal du Die, oui, bien
voilà.
Sûr.
Mais c'est lié aussi à des événements. Est-ce que vous envisagez peut-être de produire d'autres événements dans l'année autour de cette ouverture du musée?
Du musée, ici, c'est vraiment l'histoire locale. C'est vraiment présenter les spécificités presque dans chaque objet. Après, les événements, c'est vraiment d'essayer de montrer un petit peu les deux. Par exemple, quand un événement est national, on essaye de partir du plus général pour revenir toujours au local.
Il existe des textes anciens qui sont conservés, qui sont un peu l'histoire du Diwa aussi.
Alors, au musée, oui, il y a des choses qui ne sont pas forcément en vitrine, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi en réserve. Un musée, c'est avant tout de la conservation. On ne expose pas la totalité des collections. Dans les collections du musée, on en a fait pas mal d'archives qui sont récupérées ça et là, qui viennent compléter les archives municipales, les archives départementales, de part et d'autre, et qui contribuent, enfin, qui pourront un jour contribuer à alimenter l'histoire du Diwa et une histoire de plus en plus détaillée. Simplement, ces archives, bah, il faut arriver à les lire, c'est pas toujours évident, parce que d'une part, il y a des gens qui écrivent comme des cochons, faut être clair, et deuxièmement, le langage, voire la langue, a énormément évolué sur les siècles précédents. Donc quand vous avez une archive du XIIe siècle, en latin médiéval, et en dérivé de Caroline, enfin de lettres Caroline, c'est-à-dire de l'époque de Charlemagne, ça devient un petit peu plus compliqué. Et là, le nombre de personnes qui sont capables de déchiffrer ça sont aussi beaucoup plus réduites. Bref, donc il y a un potentiel énorme pour écrire l'histoire de ce pays, simplement bah, ça va prendre énormément de temps. Et plus il y a de gens qui travailleront dessus, moins ça prendra de temps. Mais voilà, c'est tout un travail de découverte, d'archivage, d'inventaire et surtout de traduction, de transcription. À ce propos d'ailleurs, s'il y a des gens qui sont intéressés pour se lancer dans ce genre de travail, le musée est tout à fait ouvert à ce genre de proposition. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait ouvrir nos locaux pour que des gens travaillent sur ces collections très particulières. On y trouve des perles, et puis il y a aussi beaucoup de papiers qui sont sans grand intérêt. Mais comme ils ne sont pas encore totalement classés, bah, il va falloir dépouiller tout ça pour trouver ce qui est intéressant à l'intérieur. C'est pour ça que c'est un travail important. Et surtout un travail de longue haleine. Après, il y a d'autres types de textes. Il y a tout ce qui a été écrit au 19e par les érudits, qui racontent quand même l'histoire du pays de façon assez détaillée. Mais simplement, au fur et à mesure qu'on avance, qu'on trouve de nouvelles choses, bah, ça permet de détailler un petit peu cette histoire, de trouver d'autres pistes. Et puis l'histoire est quelque chose de totalement évolutif, c'est pas fermé. C'est-à-dire que chaque nouvelle découverte, que ce soit en archéologie ou en archives, permet soit d'apporter des précisions, soit de changer complètement la façon qu'on avait de voir les choses. Donc faut pas imaginer l'histoire comme étant quelque chose de figé et écrit une fois pour toutes, c'est jamais le cas. C'est totalement évolutif. Et puis, pour une raison qui est aussi simple, c'est-à-dire que quand il arrive quelque chose, quand vous êtes témoin d'un événement, vous n'en voyez qu'une partie. Enfin, c'est vrai dans une enquête policière, c'est vrai dans un accident de la route, c'est vrai dans n'importe quelle situation. Plus il y a de témoins, plus il y a de points de vue différents et plus on arrive à avoir une idée de ce qui s'est réellement passé. Et là, c'est avec des témoins vivants qu'on peut interroger, qu'on peut réinterroger. Imaginez quand vous avez des témoins qui sont morts depuis 1000 ou 2000 ans, ça devient difficile d'avoir l'ensemble des points de vue sur un événement. Et donc, chaque découverte peut apporter un éclairage totalement différent et repositionner complètement l'histoire.
Est-ce que c'est aussi ce même enjeu pour les commerçants, justement, de maintenir l'histoire de Die et cette ouverture de leur vitrine à ces objets du musée? Alors, est-ce qu'il existe une prise de conscience aussi de ce musée et de cette mémoire locale?
Alors, prise de conscience, je dirais, elle est diverse. C'est-à-dire que les commerçants ont tous pris conscience de l'intérêt de ces objets du musée. Enfin, c'est des objets anciens, certains étant vraiment très vieux, certains ayant vraiment une valeur historique réelle au niveau local. Donc je crois que tous les commerçants sont parfaitement conscients de l'enjeu, de la confiance qu'on leur fait aussi, évidemment, et de l'intérêt qu'il y a pour eux à présenter ce genre de choses dans leur vitrine. C'est aussi créer du lien entre les divers commerçants, créer du lien entre les commerçants et le musée lui-même, qui n'est pas un commerce, mais qui participe aussi à l'animation de la ville à sa façon. Enfin, voilà, on est dans la base de la culture, c'est précisément de créer du lien, en fait. C'est à ça que ça sert, normalement, la culture.
C'est ce sentiment-là que vous avez aussi, Apolline, vis-à-vis de l'histoire, de l'art.
Oui, tout à fait. Moi, je suis assez d'accord. Que ça, enfin, le but, c'est quand même de réunir les différences, en les mettant en valeur aussi, mais en montrant. Je voulais rajouter, on parlait du local, du Divois, mais il n'y a pas que dit. En fait, il y a plusieurs volets dans ce projet. Le musée sort de ses murs. Il y a une partie qui se passe sur dit même. Il y a une autre partie qui se passe aussi à Vassy-en-Vercors, en partenariat avec le musée de la Préhistoire. Le programme, vous pourrez le retrouver d'ailleurs de toutes les deux semaines sur le site du musée dès ce soir. Donc il n'y aura pas que les vitrines et le parcours sur les objets, il y aura aussi des animations comme des conférences. Une conférence le 13 septembre au Café Voltaire à Die, puis en octobre il y aura une conférence spéciale destinée aux adolescents dans la cité scolaire sur les pratiques d'archéologie d'aujourd'hui. Sur le volet Vassy-en-Vercors, alors il y aura justement le prolongement de ce projet. Projet qui s'appelle Du patrimoine sensible, qui propose de réinterpréter les objets des musées, qui sera du coup cette fois-ci à Vassy-en-Vercors, musée de la Préhistoire.
Sous forme d'atelier, oui.
Oui, voilà, il y aura deux séances d'atelier, si je ne me trompe pas. Et enfin, le 23 novembre, donc le dernier jour, toute la restitution, le bilan en gros du projet, ça, il aura lieu aussi à Vassy-en-Vercors.
Des ateliers de quoi qui seront proposés ?
Alors c'est le même type d'atelier que ceux qui ont eu lieu au musée de Die pendant l'année écoulée, c'est-à-dire il y a un choix qui est fait dans les objets, cette fois-ci du musée de la Préhistoire de Vassieux. Et les gens qui participent aux ateliers, qui vont s'inscrire, vont réinterpréter, comme ils l'ont fait à Die, les objets de Vassieux en fonction de leur propre vécu, de leur propre sensibilité, à la fois en graphique, enfin, en création graphique et à la fois en création littéraire. Donc le même principe, mais à échelle réduite, parce qu'il n'était pas possible de faire fonctionner ça sur Vassieux pendant toute l'année. Mais voilà, on est très content aussi d'avoir eu cette ouverture sur le parc du Vercors, accessoirement, je dis accessoirement avec beaucoup d'humour, financée par le parc du Vercors, puisque le parc a été vraiment intéressé par ce projet, là aussi dans le cadre d'un appel à projet. Nous, ça nous permettait aussi de créer du lien, puisque c'est ce qui nous importe, avec le musée de Vassieux, le musée de la Préhistoire de Vassieux. On a deux musées qui sont à 20 km à vol d'oiseau l'un de l'autre, et c'est beaucoup plus sympa de les faire communiquer entre eux, de se renvoyer la balle de l'un à l'autre. Donc ça permettait justement d'initier un partenariat entre ce musée de Vassieux et le musée de Die, et on verra où ça nous mène dans l'avenir, mais j'espère que ça sera une collaboration qui pourra se poursuivre. En tout cas, il y a donc tout ce volet du projet qui se passe dans le cadre du parc, puisque rappelons que Vassieux, comme dit, font partie du parc naturel régional du Vercors.
Apolline et Jacques Planchon, merci d'être venus nous parler donc de ces journées d'ouverture du musée. Donc le musée sort de ses murs, et puis aussi la participation des commerçants de Die avec les vitrines muséales. Ce sera une période qui aura lieu entre le 10 et 22 septembre à Die.
C'est ça.
Et juste une petite pour le public, vous avez un site internet?
Oui, bien sûr.
Et qui est
Musée-de-Die.org.
Voilà, très bien.
Ainsi que Facebook.
Vous avez une page sur Facebook aussi.
Et Twitter.
Qui est mise à jour assez régulièrement, oui. Justement, pour se tenir au courant.
Oui.
Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Au revoir. Au revoir.
Interview.
Okay. The bird.